Un des domaines qui nous touche chaque jour et qui est essentiel à toute l'humanité, c'est le monde de l'agriculture et des fermiers. Un univers complexe, important et souvent méconnu par ceux qui ne sont pas du milieu. Oui, on sait c'est quoi une ferme, mais savons-nous vraiment comment tout fonctionne dans une ferme? Personnellement, j'en ai aucune idée. Plongeons ensemble dans cet univers et apprenons aux côtés de diverses personnes du domaine. Je vous présente GoFM dans le pré. Aujourd'hui, je suis avec Denis Pomainville, ancien maire de la Nation, avocat, présentement président du comité des Amis du Village Gagnon, parmi beaucoup d'autres titres. Comment ça va?
Ça va très bien.
Et tu veux-tu te présenter un tout petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas?
Bien, je suis né à Limoges. Effectivement, je suis né à Gagnon, qui était à l'époque une petite communauté entre Limoges et Casseman. C'était un village complet. Maintenant, j'ai grandi sur une ferme laitière. Mes parents avaient une ferme laitière qui, plus tard, est devenue la propriété de mon frère Régent, celui qui est décédé, malheureusement, il y a 2 ans. Moi, j'ai pratiqué le droit pendant 30 ans. J'ai également été président de différents comités. À un moment donné, j'en avais 7 ou 8. J'ai participé à la bataille de Montfort. J'étais vice-président du conseil d'administration dans les années 97 et suivants. J'ai même été président du comité de la radio communautaire ici, au moment où on était à Cornwall, et on avait déménagé ici à Casseman pour être un peu plus central pour notre clientèle. J'ai été 20 ans siégé sur des conseils d'administration des mutuelles d'assurance en Ontario. Au-delà de 20 ans, administrateur des caisses populaires des jardins. J'en passe finalement 30 ans en vie politique, dont 23 ans comme maire. Au départ, c'était Cambridge. Après ça, c'est devenu, lors de l'amalgamation en 97, la municipalité de la Nation. J'ai travaillé auprès, comme conseiller spécial auprès du ministre des affaires municipales à l'époque, M. Leach. Alors, je faisais partie du comité dans la grande réforme des municipalités et l'amalgamation des municipalités dans les années 96, 97 et 98. Depuis 2 ans, j'ai remplacé mon frère à la tête des Amis du Village Gagnon. C'est un projet qu'on a commencé il y a 23 ans passé, au moment où on s'est dit ça n'a pas de sens qu'une communauté qui a déjà existé, qui était vivante, a disparu complètement. J'étais maire de la municipalité, alors il y avait déjà un terrain disponible à l'endroit et on a commencé à planter des arbres, à construire le souviens-toi, le racontoir, le palais-ci. Et en 2010, on a, au moment où mon frère procédait à construire une nouvelle maison sur la ferme, au lieu de démolir la maison patrimoniale qui date de 1880, on l'a déménagée au parc du village Gagnon. On avait acheté à ce moment-là un autre arc de terrain. Et la maison maintenant est un musée qu'on peut visiter. C'est la maison où je suis né. C'est une maison qui date de 1880. Et malheureusement, c'est le seul bâtiment qui existe encore de ce qu'était la communauté de Gagnon. C'est une maison en pièces qui date de 1880. Il y a des pièces qui ont été faites au moulin-ci, d'autres ont été faites à la hache. Alors, c'est quand même extraordinaire qu'on a réussi à sauver un bâtiment. Alors, on est très fiers d'accueillir les gens. Samedi dernier, c'était notre épluchette de maïs annuelle et nous avons été heureux d'accueillir les gens de la clinique juridique de Prescott Russell qui fêtaient leur 40e anniversaire d'existence. Et la radio communautaire était là, on était très heureux de participer. Et voilà, c'est un peu en gros ce que j'ai fait dans ma vie. Le parallèle, c'est que malgré toutes mes activités, j'ai toujours aimé l'agriculture. J'avais acheté la ferme voisine de mes parents il y a 53 ans passés et je faisais de la grande culture. Bien sûr, je ne faisais pas tout, j'avais des employés, mais j'ai toujours été mêlé dans l'agriculture. Mes deux frères, les plus vieux, sont des agronomes. Mon frère André, qui est à Alfred, possède près de 300 acres en culture. Et mon autre frère, Roger, qui est agronome également, participe encore beaucoup, principalement actuellement avec Luc Faux au niveau de la relève agricole.
Puis, tu as mentionné que tu es né sur la ferme Pommainville, puis tout ça. Donc, toi, tu es vraiment impliqué dans le monde agriculture depuis tout le temps.
Depuis toujours. Mon père a été secrétaire de la coopérative, c'est-à-dire la fromagerie de Gagnon. Il était le dernier secrétaire quand ça l'a fermé en 1948. Mon père a été sur les comités laitiers en Ontario. Il a fait partie de l'Association des sols et récoltes. Mon père a toujours été très impliqué dans l'agriculture et toute la famille. Mon frère Régent, qui est décédé il y a 2 ans, a été membre actif de la Fédération d'agriculture de Russell pendant des années et des années, pour finalement, dans les dernières années, faire partie de la Fédération d'agriculture, mais au niveau de l'exécutif provincial. Alors, il a été très, très actif à ce niveau-là. Et c'est lui qui fait en sorte que maintenant, les agriculteurs en Ontario peuvent recevoir leur documentation, leur inscription en français.
Wow!
Alors, il a poussé pour qu'il y ait une branche de la Fédération qui permet de servir la clientèle francophone agricole en Ontario.
Bien, surtout, c'est important dans notre comté, dans notre région à nous, que ce soit Prescott Russell, aussi Glengarry, SDG, etc., parce qu'on est une grande portion qui est des franco-ontariens.
Oui, l'Est de l'Ontario, beaucoup de cultivateurs franco-ontariens, mais dans le nord de l'Ontario également, il ne faut jamais oublier, et dans le sud, complètement dans le sud de l'Ontario, il y a plusieurs communautés encore francophones.
Fait que c'est important aussi d'avoir ces services-là.
C'est très important. Nous, dans la famille, le français a toujours été très important. Quand la bataille de Montfort est arrivée, Mme Gisèle Lalonde, quand elle a parti le mouvement SOS Montfort, j'étais à Toronto à ce moment-là, à la convention des municipalités, elle m'a appelé et a dit « Denis, il faut que tu t'en viennes travailler avec nous autres ». Et c'est là qu'on a commencé la bataille de Montfort, qui a duré 6 ans. Il ne faut jamais l'oublier, ça n'a pas été facile.
Ben non, ça n'a pas été facile. Puis j'aimerais ça retourner un petit peu à un commentaire que tu avais dit tantôt. C'est quand tu es né sur la ferme Pommainville, c'était quelle sorte de ferme et pourquoi que tes frères, eux, ont décidé d'aller dans le domaine de tout ce qui est pommier puis tout ça, tout ce qui est agronome?
C'était ce que j'ai dit tantôt, une ferme laitière. Mais à l'époque, non seulement on avait une ferme laitière, mais on faisait beaucoup de légumes. On avait des œufs. On vendait des œufs. On vendait des coques d'engraissement. On avait des porcs également. Alors, mon père a été partiellement laitier à un moment donné. Quand j'étais jeune, tous les 2 jours, il fallait embouteiller le lait. Et avant la pasteurisation, bien sûr. Et mon père faisait sa livraison. Dans le village de Limoges, je livrais des œufs, du porc, de la volaille, des légumes, du lait. Alors, c'est un peu comme ça qu'on vivait à l'époque sur la ferme. Mon père était un des premiers dans la région à croire en des animaux de race pur sang. Et dans les années 50, je pense que c'est 54 ou 55, il a commencé à faire l'élevage des animaux de race. Et plus tard, dans les années 60, son troupeau était tellement bien reconnu, il y avait de très bons animaux, on faisait même l'exportation à Cuba à l'époque.
Jusqu'à Cuba?
Oui.
Et tu as mentionné qu'avant la pasteurisation, il fallait tout que tu embouteilles. C'est quoi la différence entre le temps d'avant puis maintenant avec tout ce qui est pasteurisation puis tout ça?
C'est évident qu'à l'époque, on ne connaissait pas la pasteurisation. Alors, on embouteillait, c'était des bouteilles de vitre avec le petit carton qui allait sur le dessus. Alors, c'était du lait cru. On avait des frigérateurs qui refroidissaient le lait et on faisait la livraison. Aujourd'hui, le lait doit être pasteurisé, alors ça prenait de l'équipement. Et à un moment donné, mon père a décidé d'abandonner parce qu'il dit « Je ne pense pas que ma clientèle me permet d'investir de façon importante pour la pasteurisation ». Et c'est là qu'on a abandonné la livraison du lait pour la clientèle locale. Et on s'est équipé d'un refroidisseur à lait en vrac à ce moment-là. Alors, ça a été une transformation importante.
Et c'est quoi ça, la pasteurisation?
C'est on chauffe le lait à une température pour détruire des bactéries ou des pathogènes.
OK. Puis... ensuite, après que vous êtes passé un petit peu du lait, vous êtes passé à quoi quand vous avez abandonné ça?
Bien, à ce moment-là, mes parents ont augmenté la quantité de vaches laitières. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'a pas doublé, mais on a augmenté de façon importante. Et puis, ça n'a pas été long que mon père est devenu malade. Et c'est mon jeune frère, Régent, qui avait 17 ans à l'époque, qui a pris la relève de la ferme. Il a à peine terminé son secondaire 12 à Casseman, ici. Et il a réussi, à partir de ce moment-là, à prendre la relève de la ferme. C'était une grosse tâche pour lui. Mon père est devenu ce qu'on appelle la maladie du poumon des fermiers. À cause des poussières, de l'humidité d'un table, mon père a perdu un poumon complètement.
Wow.
Et a été en convalescence pendant plusieurs années. Il s'est mis à faire de la physiothérapie et il a quand même, écoutez, il avait pas 60 ans à l'époque et puis il a vécu jusqu'à 90 ans avec seulement, même pas un poumon complet.
Mm-hmm. Donc, c'est incroyable, premièrement, qu'il ait vécu aussi longtemps comme ça. Puis aussi, ton frère t'a mentionné qu'il était devenu agronome.
Oui, j'ai deux de mes frères, les deux plus vieux, bien sûr, André et Roger. André a fait son cours d'agriculture au Collège McDonald de Montréal. Et puis Roger a fait 2 ans d'agriculture à Kempville comme technicien. Puis après ça, il s'est dirigé à l'Université de Guelph. Alors, les deux frères les plus vieux ont fait un au Québec et l'autre en Ontario, parce qu'eux autres aussi adoraient l'agriculture et ont toujours vu que c'était leur vocation.
Puis, comment ils ont fait pour partir des vaches laitières, puis qu'est-ce que vous faisiez sur la ferme quand vous étiez plus jeune à aller plus dans l'agronomie?
C'est-à-dire que mon père a toujours poussé pour l'éducation.
OK.
Et il voulait que ses enfants soient instruits, aller au collège ou à l'université. D'ailleurs, on a tous fait des diplômes universitaires. Ma sœur, elle, est infirmière. Mm-hmm. Et le seul qui n'a pas fait de collège, c'est mon frère Régent, parce qu'il est obligé de prendre la ferme très, très jeune à ce moment-là.
OK, puis lui, il s'est décidé, OK, on va aller plus dans la direction de l'agronomie.
Régent, non, il a pris la ferme paternelle.
OK, il a pris la ferme ouais. paternelle.
Alors, André a commencé, le plus vieux, a commencé comme agronome dans la région de Nipissing, dans le nord de l'Ontario. Mm-hmm. Il a été plusieurs années à Nipissing. Et puis, quand il y a eu l'ouverture dans l'est de l'Ontario, il est revenu s'établir ici. Il a été agronome de Prescott Russell après ça pour le restant de sa vie. Roger, lui, a fait son cours en agronomie, mais c'est surtout dirigé dans l'enseignement. Il a également, à un moment donné, été responsable des publications pour l'Agriculture Canada au gouvernement fédéral. Alors, il a occupé des postes très importants.
Oui, et on va revenir un petit peu à toi. Toi, quand tu es allé à l'université puis tout ça, tu as mentionné par la suite que tu as acheté une ferme.
Oui, la ferme voisine qui est devenue disponible. Monsieur Desjardins est décédé. Alors, Madame Desjardins n'avait plus personne pour prendre la relève. Elle a loué la ferme pendant quelques années, et puis à un moment donné, elle devenait disponible. C'est la ferme voisine paternelle. C'est une ferme que je connaissais depuis toujours, parce que quand j'étais jeune, M. Fournier, qui était là, a eu des enfants très tard. Alors, à partir de 9, 10 ans, 11 ans, etc., j'allais conduire son tracteur sur la ferme. Mm-hmm. Alors, je connaissais très bien cette ferme. Et puis, elle est devenue disponible, et j'ai toujours gardé cet attachement à l'agriculture. Alors, j'ai acheté la ferme. J'ai fait beaucoup de transformations. J'ai fait drainer, c'est-à-dire qu'on a posé des tuyaux de plastique partout pour améliorer la récolte. J'ai fait beaucoup de terrassement, construire des bâtiments, etc. Alors, j'ai investi toute ma vie dans cette ferme. J'ai toujours aimé travailler sur la ferme, conduire des tracteurs, voir les récoltes pousser. Selon moi, c'est un peu une passion.
Puis cette passion-là s'est développée parce que tu as tout le temps vécu sur la ferme Pommainville quand tu étais plus jeune.
Exactement. On a toujours aimé ça. On travaillait très fort. Du matin au soir, vous savez, encore aujourd'hui, je me lève à 4h30, 5h, alors que je suis à la retraite. Je pourrais me lever beaucoup plus tard, mais c'est ancré en moi. Je me lève très, très tôt. Sur la ferme, on commençait très tôt, puis on finissait quand il commençait à faire noir le soir. On a cette habitude de travail acharné. Et dans la famille, on est tous comme ça. On n'a pas peur de l'ouvrage.
Et toi, ta ferme, c'est quoi que tu fais pousser dessus?
Alors, au début, je faisais surtout pousser des céréales, un peu de céréales, mais surtout du foin. Je produisais des petites balles de foin à l'époque, surtout pour les chevaux. Mm-hmm. Et l'hiver, on envoyait des camions et des camions de petites balles de foin en Floride, mm-hmm, pour les chevaux.
Puis c'est comment ça? Comment tu faisais pousser ce foin-là? C'est quoi le processus?
Le processus, c'est que c'est une culture qui, une fois qu'elle est bien implantée, peut durer pendant plusieurs années. Si ton sol est en bonne condition, bien drainé, bien fertilisé, vous pouvez avoir des récoltes de foin pendant des années et des années avant de ressemencer. Sur ma ferme, c'était surtout un mélange de luzerne et de fléole, dont les acheteurs aimaient bien cette qualité de foin.
C'était pour nourrir les chevaux?
C'était pour nourrir les chevaux.
Et est-ce que tu faisais de la transformation alimentaire avec ça?
Non, je ne faisais pas de transformation. Tranquillement, c'était bien sûr produire des petites balles à l'époque. C'était très exigeant. Mm-hmm. Ça nous prenait beaucoup de main-d'œuvre. Tout se faisait à la main. On pouvait presser entre 2000 à 3000 balles par jour quand il faisait beau. On avait trois presses avec mon frère. On produisait, je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui produisent des quantités énormes de foin. À un moment donné, la clientèle, la main-d'œuvre disponible, parce que c'était surtout des jeunes à partir de 16 ans, 17 ans, 20 ans qui venaient travailler. Et ils étaient fiers de venir travailler, même si c'était très exigeant. Puis tout à coup, on a commencé à percevoir qu'on avait énormément de difficultés à avoir de la main-d'œuvre, mm-hmm, pour la manutention des balles. Alors à ce moment-là, on s'est mis à produire des balles rondes et finalement des grosses balles carrées. Et on a abandonné le marché de la Floride.
Puis ensuite, est-ce que vous avez opté pour aller dans un... planter quelque chose d'autre que du foin?
Exactement. Alors, tranquillement, graduellement, on a commencé à produire du maïs, mm-hmm, et de la fève soya. Alors, dans les dernières années que j'étais en production, on ne produisait exclusivement que des céréales, de la soya et du maïs.
Et le céréal, lui, c'est quoi ce processus-là?
Le céréal, ça dépend. Ça peut être du blé pour la, mm-hmm, consommation humaine, ou ça peut être de l'orge pour les brasseries. La soya, principalement, allait au port de Montréal. On chargeait sur des bateaux et ça s'en allait pour la soya au Japon. Mm-hmm. Le maïs, lui, il s'en allait pour la production d'éthanol.
OK, donc vous il transformait ça en gaz.
Il transformait ça en éthanol et puis après ça, une fois qu'on a extrait l'éthanol, ça retourne pour la nourriture des animaux. Dans les dernières années, c'était mon frère André qui avait pris sa retraite et qui continuait l'exploitation de ses fermes dans la région d'Alfred et Lefebvre. Et à ce moment-là, lui s'occupait de ma mise en marché. Alors, c'est mon frère André qui s'occupait de ça. Lui, tous les jours, vérifiait le prix des marchés à Chicago, qui est là, qui se décide le prix des céréales. Et il disait, bon, ben, c'est le temps de vendre aujourd'hui. Ou parfois, on vendait jusqu'à 50% de la récolte en février ou en mars. Et puis, on attendait l'autre 50% au moment de la récolte. Parce que le métier de cultivateur, surtout dans les grandes cultures, vous savez ce que vous mettez dans la terre, mais vous ne savez pas comment va être la récolte à l'automne. Ça peut dépendre énormément. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'eau? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de soleil? Alors, c'est toujours un risque. Et vous ne vendez jamais dans un pré-contrat la récolte complète.
Et pourquoi que c'est Chicago qui décide les prix et tout ça?
Ah, c'est le système de l'Amérique du Nord.
Donc, tout passe par Chicago.
C'est-à-dire que les prix sont établis par la bourse des céréales à Chicago. Non, les céréales vont un peu partout à travers le Canada ou à travers les États-Unis ou à travers le monde. Mais le prix qui est payé aux cultivateurs est basé toujours sur les prix établis par Chicago.
OK, puis c'est eux autres qui décident pas mal, si, selon les récoltes que peut-être eux ont ou l'information qu'ils ont.
Ils ont, exemple pour la soya, il y a le grand producteur de soya, c'est les États-Unis, mais maintenant ce n'est plus les États-Unis, ce sont le Brésil.
OK.
Alors, c'est selon la production. Est-ce que la production est bonne au Brésil, est-ce qu'elle est bonne aux États-Unis? Est-ce qu'elle est pauvre? Est-ce qu'on a des réserves? Est-ce qu'on n'a pas de réserves? Puis après ça, bien, vous avez toujours les productions mondiales aussi. Parce que c'est un marché des céréales, c'est un marché international maintenant.
OK. Donc, c'est vraiment contrôlé par tout ce qui se passe dans le monde.
Oui. La demande, vous savez, la guerre en Ukraine avec la Russie affecte le marché des céréales. S'il y a une sécheresse dans l'Amérique du Sud, s'il y a une sécheresse dans le Midwest américain, alors ça peut énormément influencer le prix des céréales. Et à un moment donné, si vous avez des bonnes récoltes partout, ben, il y a des surplus. Si vous avez des surplus mondiaux, c'est évident que les prix vont aller à la baisse.
Mais si il y a une plus grosse demande, ben, les prix vont aller à la hausse.
C'est ça. C'est toujours une question d'offre et de demande, bien sûr.
Puis, pour revenir un petit peu en arrière, c'est comment que vous faites pour cultiver le soya?
Le soya, selon moi, c'est une plante assez facile à cultiver. Ce qui est important, c'est que votre sol doit être drainé, dans le sens qu'il faut qu'il y ait des... faut pas que l'eau s'accumule. Parce que si l'eau s'accumule, ça va faire mourir le plant. Faut que vous ayez un bon sol organique, une bonne matière organique. C'est une plante qui est assez facile à semer, qui ne demande pas beaucoup de fertilisants, contrairement au maïs. L'azote, ce n'est pas un élément important parce qu'au contraire, la soya... prend l'oxygène de l'air, le transforme en azote et le met dans le sol. Alors, une fois que vous avez produit une bonne récolte de soya, la matière organique de votre sol est meilleure, contrairement au maïs. Ah oui, c'est une bonne plante pour fertiliser le sol. Et vous semez au printemps, vous devez contrôler les mauvaises herbes, bien sûr, mais si vous contrôlez les mauvaises herbes, vous allez avoir une bonne récolte dans la région. Quand j'étais jeune, il y a 65 ans passés, on était incapable de semer de la soya ici. La saison était trop courte. Maintenant, la saison s'est allongée énormément à cause graduellement du réchauffement de la planète. Et l'Est de l'Ontario, par exemple, c'est une excellente production maintenant de fèves soya et de maïs.
OK, puis tu mentionnes le drainage. Donc, cette année, ça a dû être une année assez difficile.
Oui. Ceux qui n'ont pas des terres agricoles, dont les terrains ont été drainés avec des tuyaux, il y a des accumulations d'eau, surtout s'il y a des endroits bas. Et à ce moment-là, les récoltes sont complètement ruinées. Il n'y a plus de récolte. Le plant s'est noyé dans l'eau. Ça prend trop de temps à s'écouler. Et en plus, si ça continue à pleuvoir, un terrain qui est mal drainé, à l'automne, ça devient extrêmement difficile avec les machines pour récolter. Parce que c'est boueux.
Mm-hmm.
Et la soya, comme c'est une plante où la table de la batteuse doit être sur le sol, et si votre batteuse commence à patiner dans la boue, c'est l'enfer.
Ben oui, parce que veux pas, ça doit peser quand même très lourd, une maçonneuse-batteuse.
Ah, écoutez, les nouvelles batteuses là, qui ont des tables de 35-40 pieds de large avec des immenses roues, ça pèse des tonnes et des tonnes. Et c'est pas long que si votre sol n'est pas en condition, ça fait d'énormes traces.
Puis ça peut ruiner aussi les champs.
Oui, dans le sens que un terrain qui est très boueux, au moment où vous passez avec les grosses machines, ça fait des traces, ça fait de la compaction. Et c'est sûr que ça crée des problèmes énormes. La compaction, vous savez, c'est que l'eau ne parvient plus à passer à travers la surface du sol. Elle demeure là. C'est surtout si c'est un terrain glaiseux. Ça devient un peu comme du ciment.
OK, donc ça fait une différence entre les différents terrains et la terre parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir, mettons, un terrain un petit peu plus sableux, un terrain un petit peu plus rocailleux ou glaiseux.
Ce qui... moi, chez moi, j'ai 4 sortes de sols.
4?
4 sortes de sols, c'est incroyable. J'ai 40% de la ferme qui est une glaise bleue. Collante. Elle doit être faite dans des conditions idéales. J'ai du sable. J'ai quelques coins de la ferme, c'est du sable. J'ai un sandy loam. Et j'ai quelques acres. C'est de la glaise rouge. Alors, c'est incroyable dans si peu grand de ferme que j'ai 4 sortes de sol.
Et selon toi, c'est quoi le meilleur sol pour faire de l'agriculture?
Je vais vous dire personnellement, depuis qu'on a du drainage, le sandy loam est définitivement la meilleure sorte de sol.
Ah oui.
Cependant, si vous êtes encore un producteur de luzerne, comme j'étais à un moment donné pour les chevaux, une fois que la luzerne est établie avec un bon drainage dans un sol argileux, vous allez avoir des récoltes de luzerne année après année parce que la luzerne peut descendre jusqu'à 7-8 pieds dans le sol pour aller chercher ce qu'elle a de besoin avec un coton qui est presque de la grosseur d'un pouce. Alors, pour des cultures de foin, la luzerne, c'est idéal, culture de luzerne. Mais pour le reste des cultures, à la longue, année après année, j'ai toujours remarqué que sur ma ferme, les endroits où était le sandy loam étaient meilleurs.
OK. Puis ça, c'est parce que c'est plus facile pour les plantes d'aller chercher les vitamines, l'eau puis tout ça?
C'est que le sandy loam, s'il est bien drainé avec des tuyaux, c'est un sol qui est un peu plus léger, qui permet à l'eau de descendre, de ne pas rester en surface. Et au printemps et à l'automne, même après une grosse pluie, vous pouvez aller dans les champs beaucoup plus rapidement et vous n'avez pas ce problème de compaction du sol.
OK, fait que lui, il ne devient pas genre en boue.
Exactement, il va rapidement sécher. Vous pouvez, même après une grosse pluie, si vous êtes bien drainé, quelques jours après, vous allez dans les champs avec les machines puis vous êtes prêt à travailler. Alors que la glaise bleue, il faut une situation idéale pour aller dans les champs.
Surtout avec les machines parce qu'à soeur, on fait plus ça avec les grandes faux, là, comme dans le temps auparavant.
Ah, oh, vous savez, moi, je me souviens que mon père coupait son foin avec les chevaux.
Oh, wow!
Et que ma mère raclait le foin avec un râteau droit. Et on avait un chargeur pour charger le foin en vrac. On a eu notre premier tracteur en 1953, donc la voiture et le chargeur étaient traînés par les chevaux, par le tracteur. Mais toutes les autres opérations étaient faites avec les chevaux. Même tirer la grande fourche, ceux qui ont connu ça, c'était ma mère qui s'en occupait avec un cheval.
Et maintenant, toi, tu as vécu un peu l'avancée technologique de tout ce qui est arrivé dans les fermes parce que tu as mentionné qu'auparavant, ça se faisait avec des chevaux. Ensuite, il y a eu les tracteurs, puis tout ça. Est-ce que tu veux nous en jaser un petit peu? C'est comment que c'est rendu maintenant la technologie puis comment que c'est différent à avant?
Alors, c'est ce que je disais tantôt. J'ai connu mon père couper le foin avec les chevaux. Ma mère raclait avec les chevaux, labourer avec les chevaux, semer avec les chevaux, j'ai connu ça. Quoique moi, j'étais trop jeune pour travailler avec les chevaux. Après ça, on a eu un tracteur. Après ça, on a eu deux tracteurs. Mais c'était quand même très... tout se faisait à bout de bras.
Mm-hmm.
Alors, ça prenait beaucoup de main-d'œuvre. J'ai connu également traire les vaches à la main.
Mm-hmm.
Chez nous, on a eu jusqu'à 28 ou 29 vaches qu'on traillait à la main soir et matin.
Wow!
Et après ça, on a eu la trailleuse. Après ça, ça a tellement évolué. Écoutez, à un moment donné, on cultivait 200-250 acres. On avait deux petits tracteurs, mais vraiment... Un W4, ceux qui le savent, sur la ferme, c'était 28 forces de moteur. Après ça, on a eu un 35 diesel qui faisait à peu près 35 forces de moteur. C'est tout ce qu'on avait pour travailler la ferme. et les voisins avaient des petits Ford gris, avaient des Massey 22. Tout était petit et tout prenait du temps. Chez nous, comme on était quatre qui pouvaient conduire, dans le temps des semences ou dans le temps des récoltes, les deux tracteurs travaillaient jusqu'à 20 heures par jour. On changeait de chauffeur.
Oh, wow! 20 heures!
Ah oui, ça travaillait continuellement, presque jour et nuit. Et les deux tracteurs travaillaient presque jour et nuit. On changeait. On était quatre, donc on changeait. On allait prendre la place de mes frères ou de mon père. Aussitôt que j'ai été capable de labourer, mon père avait son W4 avec deux charrues, une charrue de deux oreilles à 12 pouces, imaginez-vous. Et le matin, il me levait à 6 heures. Je commençais à labourer. À 8 heures, il venait prendre ma place. J'allais à l'école. Quand je revenais à 3h30, ma mère me faisait un petit lunch et j'allais prendre la place de mon père et je labourais jusqu'à temps qu'il fasse noir. Et dans toute la journée, on avait labouré à peu près 6 acres.
Alors, wow!
Dans toute la journée. Plus tard, quand on a eu l'autre tracteur, ben là, on labourait 5 oreilles, ça allait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, vous avez de la grosse pièce d'équipement. C'est des dizaines d'acres qu'on peut faire dans une demi-heure ou dans une heure. Tellement
autant
les machines
que ça!
Ah oui, tellement les machines sont grosses. Maintenant, je loue ma ferme. J'ai un cultivateur, puis c'est pas encore les plus grosses machines. Il y a des fermes qui en ont de beaucoup plus grosses. Cultivateur qui vient chez nous, travaille avec un cultivateur de 25-30 pieds. Il rentre dans un 20 acres et en dedans d'une heure, il est sorti. Alors, ce que nous, ça prenait deux jours à faire, ils le font dans moins d'une heure aujourd'hui. Alors, il n'y a absolument aucune comparaison. Les moissonneuses-batteuses, on en a eu sur la ferme. On a eu des petites moissonneuses-batteuses automotrices à 8 pieds de coupe. J'ai eu des batteuses traînantes derrière le tracteur à 8 pieds de coupe. On faisait plus ou moins un acre à l'heure. Aujourd'hui, avec les grosses batteuses, on fait des dizaines et des dizaines d'acres rapidement. On peut battre 50, 60, 70 acres dans une journée. Normalement, ça peut être 40-50 acres. Nous, on faisait 7-8 acres par jour. Alors, il n'y a pas de comparaison du tout, du tout, du tout. Vous avez les planteurs aujourd'hui. On a commencé à planter le maïs avec un planteur à un rang. On faisait 5 à 6 acres par jour. Après ça, on a eu un planteur à 2 rangs. Après ça, on a eu des planteurs à 4 rangs. Aujourd'hui, vous avez des planteurs qui ont 16, 20 rangs, peut-être un peu, même un peu plus. Alors, et c'est par GPS. C'est le GPS qui détermine exactement où vous allez planter. Nous, on avait des marqueurs mécaniques. Alors, c'est le jour par nuit. Dans les batteuses, maintenant, à mesure que la batteuse bat, vous avez l'humidité des céréales, vous avez la quantité des céréales, vous avez tout ça sur l'ordinateur à mesure que la batteuse avance. Alors, les tracteurs, c'est la même chose. C'est réglé, comme on dit, par l'ordinateur qui va décider du régime du tracteur qui est le plus efficace, la vitesse, etc. Alors, c'est, y a aucune comparaison avec ce qu'on a connu.
Donc, tu peux dire que c'est pas mal tout réglé par la technologie, c'est quasiment automatisé maintenant.
Oui, effectivement, je ne veux pas dire que tous les cultivateurs sont rendus à ce point-là, mais ceux qui ont des grandes cultures, des immenses fermes, il y en a qui ont des milliers d'acres, ça peut être 2000, 3000, 4000. J'en connais un qui a 6 ou 7000 ou 8000 acres de terre dans la région ici. Alors, oui, c'est moderne, c'est très moderne, c'est très, très réglé par les ordinateurs. Même, il y a des machines agricoles qui peuvent maintenant presque rouler tout seul dans le champ sans conducteur.
Wow! Donc, c'est un peu comme la Tesla des fermiers. Qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Définitivement. Si vous allez dans les expositions agricoles, ou dans, comme là, à l'automne, il y a les Outdoor Fair à Woodstock, ou si vous allez dans les Plowing Match, etc., vous allez voir des machines agricoles qui peuvent fonctionner tout seul à partir d'ordinateurs.
Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir confiance?
Oui, ça évolue tellement rapidement. Oui, les machines, le tracteur ou la moissonneuse-batteuse rendue au bout du champ, elle va tourner, elle va se repositionner avec le GPS et, comme on dit, ça fonctionne presque tout seul.
Donc, le GPS a une genre de map de tout le champ au complet, puis c'est vraiment quasiment, OK, ta ligne est ici, il faut que tu plantes telle affaire-là, telle affaire-là, telle affaire-là.
Oui, le planteur, par exemple... va planter, puis on va mettre les engrais nécessaires selon les analyses de sol ou selon la production que la batteuse a obtenue à la récolte précédente. Alors, à mesure que la batteuse avance, on sait, par exemple, que dans telle région de telle pièce, ça l'a produit tant. Donc, elle a produit moins que l'autre. Pourquoi? Et là, ils vont analyser le sol, et quand on replante, il peut y avoir des régions dans une grande pièce où on va mettre plus de fertilisant, moins de fertilisant, de façon à ce que la récolte soit uniforme à l'automne.
OK, donc en même temps, ils font cette analyse-là direct quand ils vont chercher la plante, mettons.
Oui, quand la batteuse, à mesure que la batteuse se déplace dans le champ, elle va vous dire... voici ce qu'on obtient à tel endroit, voici, et on fait comme une carte. Et plus tard, quand on va, les cultivateurs vont analyser le sol et on va établir les fertilisants en fonction de ce qu'on a obtenu de la batteuse et de l'analyse de sol.
Tandis que auparavant, les gens fallait qu'ils fassent ça genre à la main ou qu'ils fassent les analyses eux-mêmes ou qu'ils croient « OK, cette année, on a eu moins de récoltes dans ce champ-là. Pourquoi? » Puis là, il faut qu'ils vérifient le sol?
Oui. On a, chez mon père, croyait là-dedans. On a commencé très, très tôt chez nous à faire des analyses de sol et à utiliser des engrais artificiels. Quoi qu'on avait beaucoup de fumier de porc, fumier de volaille, fumier des vaches à lait. Mais On a commencé également à utiliser des fertilisants. Et à partir du moment où on savait, par exemple, à l'œil, que tel endroit de telle pièce produisait moins, puis on en mettait un peu plus, mais c'était à l'œil, selon ce qu'on croyait être nécessaire, mais c'était pas précis comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement précis, c'est incroyable.
Ben c'est ça, parce que tu sais, faire une analyse justement du sol à l'œil, ou peut-être tu sais, tu creuses puis tu te dis ok, ben je sais pas comment ça fonctionne une analyse, il faut que tu creuses, mais peut-être est-ce que tu envoies la terre à un laboratoire puis eux sont comme ok, ben il y a tel minéraux dans ta terre, il te manque telle chose.
Exactement. Vous avez aujourd'hui, on a même des gens qui viennent prendre l'analyse, ça peut être des coopératives ou autres, ils viennent avec une machine, c'est même pas manuel, tout se fait presque automatique. Vous avez une sonde qui prend un échantillon à tel endroit, c'est fait sur la carte, mm-hmm. Avec les ordinateurs. L'analyse revient et elle va être soumise au planteur qui va décider, ici on a besoin de tant de livres à l'acre, d'azote, de potasse, de phosphore, etc. À 500 pieds plus loin, on va en mettre un peu moins. À 1000 pieds plus loin, on va en mettre un peu plus, etc. Alors, tout se fait cartographié maintenant.
Puis, c'est envoyé dans les machines pour que les machines, eux, quasiment automatiquement, ils sont comme, OK, il y a une personne dedans que lui s'assure que tout fonctionne bien.
Se fait automatique.
Puis, après ça, ben la machine, elle est comme, OK, ici, je vais mettre telle sorte de fumier.
Une fois que, ben pas le fumier, mais les fertilisants.
Oh, ouais.
Vous avez, une fois qu'on a établi la carte avec les analyses puis la production antérieure, l'ordinateur va décider qu'à tel endroit, on en met plus, mm-hmm. parce que c'est nécessaire.
Et je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit tantôt, mais moi, je pensais que tout le monde utilisait juste du fumier de vache.
Ah, à l'époque, oui, au début. Au début, écoutez, il y avait des petites fermes partout. Chez nous, à Gagnon, il y avait peut-être 70 à 80 cultivateurs. Mm-hmm. Aujourd'hui, il en reste des grandes cultures. Il n'y a plus de vaches à lait, premièrement, dans l'ouest de la municipalité de la Nation. Il n'y a plus aucune production laitière. Mm-hmm. La production laitière est concentrée à Saint-Albert, et région de Casamon, puis après ça, Saint-Isidore, Saint-Bernardin, etc. Dans la région à l'ouest de Casamon, il n'y a plus aucune production laitière. C'est fini. À l'époque, on utilisait, bien sûr, le fumier de vache. Nous, on avait des volailles. On utilisait le fumier de volaille puis le fumier de porc. Vous savez que le fumier de volaille, c'est à peu près le meilleur fumier pour la production.
Moi, je pensais que c'était toute la même chose. Que c'était pas mal toute la même chose, mais les vaches en produisaient plus, fait qu'on va utiliser celui de vache.
Non, le fumier de la volaille, je peux pas vous l'expliquer personnellement, mais à cause du contenu, c'est un fumier qui est encore plus fertilisant que le fumier de vache.
OK, puis est-ce que le fumier, ça doit être quand même assez utilisé aujourd'hui avec les machines, encore une fois?
Oui, bien sûr. Nous, à l'époque, moi, je me souviens de l'époque où mon père, avec les chevaux, et une sleigh. On vidait l'étable du fumier, on mettait ça dans la sleigh, on allait mener ça dans le champ en petit tas. Et au printemps, avec les fourches, les brocs, comme on dit, on étendait ça à la main. Ça, c'était quand j'étais très, très jeune. Puis après, on a eu un épandeur à fumier mécanique qui était petit à l'époque, c'était 90 minots derrière le tracteur. Et on faisait un tas, mm-hmm. près de la grange, et au printemps, avec une pelle de tracteur, on chargeait ça dans l'épandeur à fumier. Mais j'ai connu, entre les deux, j'ai connu où on chargeait l'épandeur à fumier à la main. Alors, on était quatre chez nous, c'est ça qui était l'avantage. Moi, j'étais toujours le plus jeune. Alors, je travaillais un petit peu moins fort et un peu moins vite que mes frères le plus vieux puis mon père, mais on chargeait, on étendait le fumier, il fallait charger à la main. Après ça, on a eu des tracteurs. Aujourd'hui, écoutez, c'est tout mécanisé. La plupart sont transformés en fumier liquide avec des gros réservoirs. Il y en a même qui ont des tuyaux pour étendre sur les fermes. Alors, c'est tout à fait un monde très, très différent. Ce n'est plus personne qui lève le fumier 8 heures ou 10 heures par jour pour charger des petits étendeurs à fumier.
Ah ouais, donc il y a des conduits à fumier qui sont répandus sur des terres?
Oui, il y a des endroits là, on peut soit charger des gros réservoirs avec des gicleurs en arrière ou des tuyaux, des doigts pour enterrer immédiatement. Et il y en a qui ont des tuyaux, des immenses tuyaux qui peuvent faire presque des kilomètres de long. Et il y a un tracteur au bout, puis il y a des pompes. Et on se promène dans le champ pour étendre le fumier liquide.
Mais avec le drainage, ces conduits-là, qui sont en dessous des terres, justement, où est-ce que les plantes poussent, ça nuit pas un petit peu au développement de la plante?
Pas du tout, pas du tout. Les plantes ont besoin de fertilisants naturels. Faut pas oublier que le drainage, dépendant des endroits, chez moi, le drainage a entre 32 à 36, 40 pouces de profond parce que
c'est
cause des élévations, parfois ça peut être un peu plus profond. Mais le fumier est mis en surface et même si c'est avec des doigts, c'est pas suffisamment pour affecter les tuyaux de drainage. Il y a très peu de danger. Ce qu'on note, par exemple, c'est que quand on met beaucoup d'azote dans le sol, éventuellement, il peut y avoir de la percolation et on peut avoir de l'azote ou du phosphore ou de la potasse qui peut se rendre jusqu'au tuyau de drainage et éventuellement se rendre dans les cours d'eau. Et on s'aperçoit que des endroits, quand on en met beaucoup, ça va dans les cours d'eau, malheureusement.
Puis ça affecte aussi la qualité de l'eau, j'imagine?
Définitivement, définitivement.
Puis est-ce que ça, si ça l'affecte la qualité d'eau, ça l'affecte-tu les plantes vu que c'est dans le sol, puis les plantes, eux...
Non, les plantes, pour fonctionner, ont besoin de différents minéraux. Mm-hmm. Les minéraux principaux, bien sûr, sont l'azote, le phosphore, le potasse. Mais vous avez du zinc, vous mm-hmm. avez de la chaux, parce qu'il y a beaucoup de terrain qui sont acides, alors les cultivateurs vont appliquer de la chaux pour enlever l'acidité du sol. Alors non, les plantes ont besoin de ces minéraux mm-hmm. pour vivre. Ils en ont besoin.
Eux autres, ça ne leur dérange pas qu'il y en a dans l'eau?
C'est-à-dire que les racines, une plante vit par ses racines.
Mm-hmm.
Alors, ils vont chercher dans le sol ce qu'ils ont besoin pour se développer.
OK. Puis, quand il se développe, les racines vont un petit peu plus creux, puis tout ça.
Dépendant de la plante, vous savez, le maïs, sa plante ne va pas tellement creux, la soya non plus. Je parlais de la luzerne tantôt. La luzerne, elle peut descendre 6, 7, 8 pieds. Moi, j'ai vu de la luzerne descendre jusqu'à presque 8 pieds dans le sol.
Ah oui! C'est-tu la racine la plus creuse que tu as vue? Ou...
Oui, pour moi.
Pour toi.
Oui.
Ceci était la première partie de Go FM et dans le pré avec Denis Pominville. Écoutez le prochain épisode pour la suite. Cette émission a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.